Le journal Thomas Larabie, bonsoir.
Bonsoir à toutes et à tous. Après les gilets jaunes, plusieurs milliers de foulards rouges ont défilé dans les rues de Paris cet après-midi. Un mouvement contre les violences et pour la sauvegarde des institutions. Nous irons prendre la température du cortège dans quelques instants. Les cortèges pour la planète gonflent de semaine en semaine. 70 000 personnes ont marché pour le climat cet après-midi à Bruxelles. Reportage dans ce journal. Les Bleus décrochent le bronze au championnat du monde de handball. La bande de Karabatic a battu l'Allemagne 26-25. En toute fin de partie, on refait le film du match à la fin de cette édition.
France Inter.
Les foulards rouges qui veulent répondre aux gilets jaunes. Plusieurs milliers de manifestants ont défilé à Paris entre Nation et la place de la Bastille. Ils étaient 10 000 selon la préfecture, 3 000 selon le journaliste de France Info présent sur place. Beaucoup de slogans et de pancartes pour dire non à la violence notamment. Retraité de la fonction publique, Claire était dans le cortège.
Je n'ai pas voté M. Macron au premier tour, donc je ne viens pas pour soutenir M. Macron. Je viens pour soutenir la démocratie. Elle est menacée, oui, parce que c'est une infime minorité qui cherche à mettre à mal nos institutions, notamment nos démocraties représentatives. J'en ai marre, depuis le début de ce mouvement, d'entendre dire « les Français pensent que, les Français, les Gilets jaunes », comme si les Gilets jaunes et les Français, c'est la même chose. Les Gilets jaunes sont les Gilets jaunes, ce sont quelques centaines de milliers de personnes. Ils ne représentent pas d'ailleurs souvent les plus pauvres ni les problèmes de la banlieue, mais je ne refuse qu'ils parlent au nom de tous les Français. Je ne suis pas contre le fait qu'ils manifestent. C'est la façon dont ils le font, c'est les injures perpétuelles contre le président de la République, sa femme, les ministres. C'est ça qui me fait peur et qui me choque profondément.
Une manifestante au micro de Yann Gallick. Jean-Luc Mélenchon appelle à la démission du ministre de l'Intérieur. Le leader de la France Insoumise estime que Christophe Castaner est responsable des violences policières de ces dernières semaines et notamment de la blessure à l'œil de Jérôme Rodriguez. Hier à Paris, cette figure des Gilets jaunes a été touchée à la tête par un projectile alors qu'il filmait le cortège place de la Bastille. L'œuvre d'un tir de flashball, selon son avocat, une plainte a été déposée pour coups et blessures volontaires. Bruno Le Maire durcit le ton contre les exilés fiscaux. Les patrons des grands groupes français doivent payer leurs impôts en France. C'est ce qu'il a martelé ce midi au micro de France Inter. En réaction à l'exil fiscal de Carlos Ghosn, ex-PDG de Renault, domicilié aux Pays-Bas depuis 7 ans, le ministre de l'économie veut lutter par la loi.
La justice, c'est de s'assurer que tous les chefs d'entreprise, des plus grandes entreprises françaises, payent bien leurs impôts en France. Quand on est président ou directeur général d'une entreprise dont le siège social est en France, on paye ses impôts en France. Nous renforcerons donc, par la loi, les règles de domiciliation fiscale dans les prochains mois, de façon à nous assurer que les dirigeants des grandes entreprises dont le siège social est en France payent bien leurs impôts en France.
Ça fait des années qu'on entend ça quand même. Hein,
oui, non, mais je
la preuve,
annonce...
Carlos Ghosn...
Karine Bécard, je vous parle de décision. Car s'il y a bien une chose nous avons compris, c'est que les Français ont aujourd'hui besoin non seulement de justice, mais de décision pour appuyer cette justice. Là, c'est une proposition très concrète que je fais. Nous renforçons les règles de domiciliation fiscale par la loi. Nous prévoyons d'alourdir les sanctions au cas où un chef d'entreprise ne respecterait pas ces règles de domiciliation fiscale. Nous faisons donc en sorte qu'il y ait plus de justice dans notre pays.
Bruno Le Maire au micro d'Ali Badou, le ministre de l'économie et des finances, qui a également rappelé qu'il serait très vigilant sur la question des indemnités de départ de Carlos Ghosn. Toujours emprisonné au Japon, il pourrait prétendre à 25 millions d'euros. À Bruxelles, les organisateurs de la marche pour le climat ont réussi leur pari, mobilisés autant qu'en décembre au moment de la COP24. Ils étaient aujourd'hui 70 000 personnes, selon la police locale, dans une ambiance plutôt bon enfant. La COP24 a été pour eux un échec, alors ils veulent continuer à se mobiliser pour interpeller les chefs d'État et les gouvernements européens. Un reportage d'Angélique Bois.
Dans le cortège, nombreux sont ceux qui en sont à leur troisième ou quatrième manifestation depuis septembre devant le Parlement, avec ce sentiment que les gouvernements ne sont pas à l'écoute. Alicia a 27 ans.
La première manifestation, on est venu ici pour demander certaines choses et malheureusement, quelques jours après, on semble ne pas avoir été écouté. Donc on revient en espérant que maintenant, à l'Europe, on sera un peu plus écouté et qu'on voit que ce soit plus juste pour l'avenir, en tout cas, pour nos enfants. Voilà, on va mettre des enfants au monde, mais dans quoi est-ce qu'on va les lâcher? Qu'est-ce qui va se passer pour eux aussi? On a envie d'une certaine sécurité pour eux en plus de ça.
Karl a 13 ans, il est allemand, il est venu en famille avec une pancarte sur laquelle est dessinée la Terre. Il n'y a pas de plan B, a-t-il écrit. Il a un message à faire passer.
Protéger notre planète, que les politiciens agissent, prendre de vraies décisions. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que dans quelques années, il n'y aura plus de planète. Moi, j'ai envie que mon futur et peut-être le futur de mes enfants soit chouette.
À ses côtés, Alexandre brandit lui aussi un globe. Il était déjà dans la rue jeudi dernier aux côtés des quelques 36 000 jeunes qui ont battu le pavé pour sauver la planète. Nous allons continuer, dit-il, jusqu'à ce que l'on soit entendu. À Bruxelles, Angélique Boin, France Inter.
Il lui laissait 8 jours pour organiser de nouvelles élections. Le président vénézuélien Nicolas Maduro a rejeté l'ultimatum lancé par plusieurs pays européens, dont la France, qui menace de reconnaître comme président de la République son opposant, Juan Guaido. Réélu en mai dernier, Nicolas Maduro voit son deuxième mandat remis en cause par ses opposants et une partie de la communauté internationale. La Russie dénonce une tentative de coup d'État menée en sous-main par les États-Unis. Ils aiment l'or, mais ils se consoleront avec le bronze. Les handballeurs français ont gagné la petite finale du mondial qui les opposait à l'Allemagne. Une victoire 26 à 25 qui s'est dessinée dans les toutes dernières secondes. Xavier Monferrand, vous êtes sur place à Herning, au Danemark. On a vraiment vu les Bleus s'arracher pour cette médaille.
Ah oui, s'arracher, vraiment, c'est ce qu'on attendait hein, de la part des experts après cette demi-finale totalement ratée face aux Danois qui sont en ce moment sur le terrain, vous l'entendez derrière moi, l'ambiance qu'il y a ici, les Danois qui disputent la finale face aux Norvégiens et qui mènent d'ailleurs de 5 buts. Les Français qui devaient se racheter entre guillemets et qui l'ont fait de fort belle manière, déjà parce qu'ils étaient dans leur match, ils n'ont jamais rien lâché et parce que ils ont gagné cette médaille de bronze à l'arraché sur un ultime but, tout un symbole de Nicolas Karabatic qui ne devait pas jouer ce mondial, qui finalement vient au mondial mais qui n'était pas prêt. C'était un pari et c'est lui qui a pris le ballon sur la dernière seconde et qui au buzzer est venu offrir cette médaille de bronze aux Français, aux experts. La 4e médaille de suite pour les handballeurs tricolores. Chaque année depuis 2014, ça fait 5 ans que chaque année les Bleus ramènent une médaille d'une compétition. Ça montre la continuité et comme un symbole, eh bien, c'est leur maître à jouer, leur star, Nicolas Karabatic, qui leur a offert.
Merci Xavier, en direct d'Herning, et on entend derrière vous le Danemark et la Norvège qui s'affrontent en ce moment même pour la médaille d'or. On est à la 19e minute, il y a 14 à 10 pour la Norvège. Il y a de la Ligue 1 de football aujourd'hui à la mi-temps. Amiens et Lyon se neutralisent 0 à 0. Plus tôt dans la journée, Montpellier a battu Caen 2-0 et grimpe à la 6e place du classement. Son divan était légendaire, le journaliste Henri Chapier, mort cette nuit à l'âge de 85 ans. De 1987 à 1994, il a assis sur son célèbre canapé jaune plus de 300 personnalités culturelles et politiques, de Gainsbourg à Christian Lacroix, en passant par Jean-Marie Le Pen et Spike Lee. Également critique de cinéma, reconnu, il avait été membre du jury au Festival de Cannes en 1996. Nous y reviendrons dans le journal de 19h. Et petit correctif par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le score entre le Danemark et la Norvège, c'est bien le Danemark, tombeur des Français en demi, qui mène de 4 points face à la Norvège. Tout de suite, le point route avec Guillaume Farioli. Il y a un accident sur la 11.
Oui, sur la 11 en direction de l'ouest. Ce carambolage entre 4 voitures s'est produit à mi-chemin entre Chartres et Le Mans, à Autun-sur-Perche exactement. Cela cause un ralentissement pendant 2 km. Vous perdez 20 minutes dans cet embouteillage. Ce n'est pas le seul accident en ce moment sur les routes. Il y en a un sur l'A75 direction Montpellier, à hauteur de Millau. Attention, l'une des voies est fermée à ce niveau. Accident également sur l'A20 vers Limoges à Saint-Sylvestre. Là aussi, l'une des voies est inaccessible. Plus à l'est, ça coince sur l'A43 en direction de Lyon, juste après Chambéry. Il y a 4 km de bouchons. En ce qui concerne la région parisienne, c'est chargé sur l'A1 avant la porte de la Chapelle. Vous mettez 10 minutes pour faire 2 km. Chargé également sur l'A86 intérieur. 4,5 km de bouchons de Rosny-sous-Bois jusqu'à Fontenay-sous-Bois. Vous perdez environ 10 minutes dans cet embouteillage.
Merci beaucoup Guillaume Farioli.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va?
Tout de suite la météo avec Jean-Michel Golinski.
Ce lundi, l'ambiance sera souvent menaçante avec pas mal d'averses dans l'ensemble, sauf sur le pourtour méditerranéen où le vent va rester très turbulent. Sur le reste du pays, les précipitations seront plus marquées sur les régions de l'Est et du Massif central au sud-ouest avec de la neige à basse altitude sur le Massif central et le relief de l'Est vers 1000 mètres sur les Pyrénées où il va beaucoup neiger. avec un fort risque d'avalanche pour les massifs en vigilance orange, et pleuvoir abondamment sur le sud des Landes et de l'Armagnac. On notera également un vent de nord-ouest assez fort près de la Manche et des températures qui commencent à baisser avec des gelées blanches ou sous-abri à prévoir du nord-est à Rhône-Alpes et sur le centre.